Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le Saint-Siège est fermement engagé dans le combat contre la torture. Monseigneur Tomasi l'a rappelé ce lundi en mettant en garde contre toute interprétation idéologique. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève était entendu par un comité d'experts indépendants chargé de vérifier l'application de la Convention contre la torture. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Le pape encourage les évêques du Burundi à prendre part au dialogue social et politique dans leur pays, qui a connu de terribles conflits. Il les a rencontrés ce lundi dans le cadre de leur visite ad limina. Dans ce magazine, vous entendrez également le cardinal Torrent qui vient de se rendre en Algérie sur les traces de saint Augustin, une visite qu'il qualifie d'importante pour les relations entre chrétiens et musulmans. Bienvenue dans ce magazine. Le Saint-Siège doit répondre ce mardi aux questions posées par un comité d'experts indépendants chargé de veiller à la bonne application de la Convention onusienne contre la torture, une convention signée par le Saint-Siège en 2002. Comme l'avaient fait les membres du comité de l'ONU sur les droits de l'enfant en janvier dernier, les experts onusiens ont de nouveau posé une série de questions ce lundi sur les mesures prises par le Vatican pour prévenir les abus commis par des membres du clergé sur des mineurs. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès des institutions de l'ONU à Genève a défendu les progrès accomplis ces dernières années par le Saint-Siège, notamment la récente réforme du droit pénal du Vatican. Monseigneur Silvano Maria Tomasi a invité les experts à ne pas se fossiliser dans le passé, sans être apparemment entendus. La juriste américaine Felice Gaer, rapporteure du comité, a ainsi demandé des chiffres précis sur le nombre de prêtres suspendus, le nombre d'enquêtes et de poursuites engagées par le Saint-Siège contre les auteurs supposés d'abus. Monseigneur Tomasi avait pourtant débuté son intervention face au comité en rappelant que la responsabilité juridique du Vatican quant à l'application de cette convention contre la torture concerne uniquement le territoire et les compétences de l'État de la Cité du Vatican et non les membres de l'Église dans le monde entier. Il reste malgré tout confiant pour la journée de ce mardi, le Saint-Siège et l'ONU partageant un même objectif, lutter contre les actes de violence et de torture.
On a dit clairement que le Saint-Siège a ratifié cette convention seulement pour l'État du Vatican. Évidemment, il y a des opinions très différentes. On n'accepte pas de part de plusieurs membres de la Commission que le Saint-Siège soit responsable seulement pour le territoire du Vatican. Ils sont de l'opinion que la responsabilité du Saint-Siège va vers toutes les institutions catholiques et les personnels qui travaillent dans ces institutions. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on discute et sur lequel on retournera quand on présentera les réponses du Saint-Siège à les questions que les membres de la commission ont posées.
La question de la responsabilité juridique du Saint-Siège avait déjà été abordée en janvier devant la commission pour la Convention des droits de l'enfant. On avait à ce moment-là parlé d'un lobby d'ONG qui avait un parti pris idéologique. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Dans les questions posées par plusieurs membres de la commission, l'information citée viennent directement de quelques deux ou trois organisations non gouvernementales qui ont de la difficulté à accepter l'évolution qui est en cours dans l'Église, je crois. Et c'est vrai, il y a un élément idéologique et surtout il y a ou un manque d'information ou un manque de bonne volonté à voir ce qui se passe dans les églises locales et dans les Saint-Sièges pour trouver une solution réalistique et efficace aux abus sexuels sur les mineurs.
Sur la question des abus, on a vu une réforme du droit pénal du Saint-Siège pour s'adapter à la Convention contre la torture. Le pape François a également mis en place une commission pour la protection des mineurs. Est-ce que malgré la réserve de quelques experts, ce travail, ces progrès ont été salués?
Il est un peu difficile de communiquer cette réalité. La perception de l'opinion publique et de quelques ONG et en particulier se concentre sur le passé. Alors il faut faire un peu attention et équilibrer les choses. Ce n'est pas encore facile de convaincre que même s'il y a encore quelques cas d'abus sexuels, parce que où il y a des personnes humaines, il y a des faiblesses et des problèmes quelquefois, mais le mouvement est très clair que les mesures qui ont été prises dans le passé ont porté des résultats efficaces.
En regardant comme ça le passé, en jugeant pour certains experts l'attitude du Saint-Siège, est-ce que la Convention ne se trompe pas de cible aujourd'hui?
Je dirais que la question est un peu plus large. Il y a des millions de cas d'abus sexuels des mineurs chaque année, selon les données statistiques des Nations Unies. Et si nous voulons vraiment aider les enfants, prévenir cette situation d'abus, il faut se concentrer sur toutes les situations, pas seulement mettre en évidence l'institution Église catholique. Si on argumente de cette manière, on est accusé de se défendre, mais c'est vraiment la réalité. On est encore en dialogue avec la Commission et on essayera de conclure sans polémique, d'une manière constructive, parce que l'objectif de nous tous est de trouver la manière efficace de protéger les enfants, de soutenir les personnes qui sont victimes des traitements, des comportements qui sont humiliants, indigne de la personne humaine.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Avant même cette audition, le bureau de presse du Saint-Siège avait mis en garde la semaine dernière contre les pressions idéologiques exercées par des ONG sur ses comités et sur l'opinion publique. En réaffirmant son ferme engagement contre toute forme de torture, il avait dit souhaiter un dialogue serein et objectif dans les limites des conventions et de leurs buts, faute de quoi ces mêmes conventions finiront par être dénaturées et les comités onusiens par perdre leur crédibilité. À noter que le pape François recevra en audience vendredi prochain le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, accompagné de responsables des institutions internationales des Nations Unies. Le pape François a reçu lundi matin les évêques du Burundi actuellement en visite ad limina à Rome. Dans un message en français qu'il leur a remis, le Saint-Père les invite à œuvrer en faveur de la conversion et de la réconciliation dans un pays encore divisé. Il souligne par ailleurs l'importance du rôle joué par les prêtres, appelés à être de véritables exemples de joie et de perfection sacerdotale. Cyprien Viette.
Je ne peux que vous encourager à prendre toute votre place dans le dialogue social et politique et à rencontrer sans hésiter les pouvoirs publics. C'est l'une des recommandations que le pape adresse aux évêques burundais. Les personnes en charge de l'autorité ont besoin de votre témoignage de foi et de votre annonce courageuse des valeurs chrétiennes, souligne-t-il, évoquant les terribles conflits qu'a connus le pays. Une histoire récente, difficile, traversée par la division et la violence, dans un contexte de trop grande pauvreté qui malheureusement perdure. Le peuple burundais, déplore le pape, demeure trop souvent divisée, de profondes blessures ne sont pas encore refermées. L'évangélisation reste donc la première préoccupation. Seule une authentique conversion des cœurs à l'évangile peut incliner les hommes à l'amour fraternel et au pardon. Le Saint-Père souligne ainsi l'importance de la formation des futurs prêtres qui s'articule autour de quatre piliers, formation intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale. C'est par toute leur vie dans le quotidien de leurs relations humaines qu'ils porteront l'évangile à tous. Il ne doit pas y avoir dans le ministère sacerdotal une prédominance de l'aspect administratif sur l'aspect pastoral. C'est sous forme d'encouragement que le pape François conclut son message, invitant les évêques à ne pas faiblir dans l'espérance. N'hésitez pas à faire en sorte que le plus grand nombre possible de jeunes puissent bénéficier de l'annonce de la foi, afin de sensibiliser aux valeurs chrétiennes les responsables de la société à venir, afin qu'elle soit plus humaine et plus juste.
Le pape François a également rencontré ce lundi la garde suisse pontificale à la veille de sa fête, le 6 mai. C'est un jour spécial, a déclaré le Saint-Père, parce que nous commémorons le sac de Rome et l'action héroïque de vos prédécesseurs qui en 1527 ont offert leur vie pour la défense de l'Église et du pape. Dans son discours, le Saint-Père a salué le témoignage authentique des gardes suisses qui, par leur service particulier, sont appelés à donner un témoignage chrétien serein et joyeux à tous ceux qui arrivent au Vatican. Chaque jour, je peux expérimenter de près votre dévouement et votre engagement. Je vous en suis très reconnaissant, a déclaré le pape. Ce mardi, 30 nouveaux gardes suisses prêteront serment lors d'une cérémonie solennelle qui se déroulera dans la cour Saint-Damase au Vatican. C'est Mgr Giovanni Angelo Becciu, substitut de la secrétaire d'État, qui assistera à la prestation de serment en tant que représentant du pape. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. Les arrivistes dans l'Église, qu'ils aillent faire de l'alpinisme. C'est le conseil que le pape François a donné à tous ceux qui suivent Jésus pour l'argent, avec l'argent, en cherchant à profiter économiquement de la paroisse, du diocèse, de la communauté chrétienne, de l'hôpital ou du collège. Il s'exprimait avec force ce lundi matin, durant la messe célébrée en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que chaque époque de l'histoire de l'Église a connu de véritables affairistes qui se sont fait plein d'argent. Mais si c'est cela qui t'intéresse, va au nord et fais de l'alpinisme, c'est plus sain, a lancé le pape. Il commentait l'épisode de l'Évangile où Jésus réprimande la foule qui le cherche seulement parce qu'elle a pu se rassasier avec la multiplication des pains et des poissons. Une réflexion proposée, hasard des calendriers, alors que le Conseil pour l'économie, institué par le pape François, a tenu vendredi dernier sa première réunion. Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est de retour au Vatican. Il s'est rendu pour la première fois la semaine dernière en Algérie à l'occasion des célébrations organisées pour le centenaire de l'élévation de la basilique de Saint-Augustin à Annaba, des célébrations auxquelles il a participé en tant qu'envoyé spécial du pape François. Lors de ce déplacement, le cardinal Torrent a bien sûr rencontré la communauté catholique, mais aussi les leaders religieux musulmans et les autorités algériennes. Il évoque une visite importante pour la communauté catholique et pour les relations entre musulmans et chrétiens.
Il y a eu deux grands événements, la messe Notre-Dame d'Afrique, qui est très chère au cœur des chrétiens de locaux. Et là, j'ai laissé à la fin de mon homélie une prière à Notre-Dame que j'ai composée moi-même et qui sera récitée désormais tous les jours après la prière du matin. Et ensuite, le 2 mai, la grande célébration de la basilique d'Annaba, l'ancienne Hippone, là aussi, il y a eu un grand concours de fidèles et présents également les musulmans. Le cardinal archevêque de Lyon était présent, l'archevêque de Marseille également, donc il y avait là cette dimension méditerranéenne. Après, il y a eu une rencontre conviviale, tous les participants ont pique-niqué dans la cour de la maison tenue par les petites sœurs des pauvres, dans une ambiance de famille. Alors, en plus de ça, j'ai eu des contacts avec le ministre des Affaires étrangères qui a donné un dîner en mon honneur, le ministre des affaires religieuses qui a également donné un dîner en mon honneur, et avec le président du Sénat, et je dois dire des interlocuteurs de très grande valeur. J'ai pu aborder avec eux les problèmes administratifs auxquels l'Église est confrontée. Je dois dire que j'ai trouvé beaucoup de bonne volonté, du moins dans les paroles, mais je crois que je suis assez optimiste. Donc c'est un encouragement à l'Église locale à poursuivre son œuvre, et j'ai insisté sur le fait que le christianisme n'est pas quelque chose de passage, mais c'est une réalité locale, et que ces chrétiens qui sont là n'ont qu'un désir, c'est de contribuer avec leurs amis algériens musulmans à une société vraiment où ils fassent bon vivre ensemble.
Lors de cette visite, vous avez confié avoir reçu du pape François la mission d'encourager les chrétiens d'Algérie à vivre leur foi en étant ouverts au dialogue interreligieux. Comment se vit aujourd'hui ce dialogue interreligieux ?
C'est le dialogue de la vie, vous voyez, c'est des mariages mixtes, c'est la collaboration pour des services sociaux. Il y a beaucoup de religieux, par exemple le service des bibliothèques est très apprécié, c'est tenu par des religieuses de langue arabe. les petites sœurs des pauvres qui s'occupent admirablement des personnes âgées. C'est une présence gratuite, c'est ça qui est très beau. Ils n'attendent rien. Ils sont là pour témoigner de leur foi et aider leurs amis musulmans à progresser.
À votre retour, vous a-t-on confié un message pour le pape François ?
Alors, on m'a confié évidemment une invitation à venir, renouveler l'invitation à ce que le pape visite l'Algérie, assurer le pape qu'il y a une très grande estime envers l'Église.
Vous avez rencontré de nombreux chrétiens, de nombreux catholiques. Quels sont les témoignages qu'ils vous ont confiés ?
Ils vivent leur foi normalement sans de trop grandes difficultés. Évidemment, il y a les conversions quelquefois, soit d'un côté, soit de l'autre. Ça doit se dérouler dans un climat de grande discrétion. Mais je dirais que ce qui est important, c'est que les chrétiens sont là. Ils sont chez eux aussi. Ils font partie de ce pays.
Que retiendrez-vous de ce premier déplacement en Algérie ?
D'abord, une agréable surprise, je dois dire, parce que je ne pensais pas que la situation était aussi positive. Ensuite, la nécessité pour les chrétiens d'être unis et d'apparaître comme une famille pour bien démontrer que le dialogue interreligieux n'est pas un produit de consommation interne à la communauté catholique, mais qu'il est quelque chose de... Le pape dit allons vers la périphérie, voilà. Et on doit aller vers les musulmans pour leur dire qu'on les aime, finalement. Et je crois que c'est ça, toujours le point central, c'est devenir amis pour démontrer que la diversité, le pluralisme religieux n'est pas une menace, mais au contraire une richesse.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, de retour d'Algérie. L'Arche fête ses 50 ans. La semaine dernière, la Fondation française a réuni plus de 2000 personnes à Paray-le-Monial pour ce jubilé. Fondée en 1964 par Jean Vanier, l'Arche est présente aujourd'hui dans près de 40 pays à travers le monde, sur les 5 continents, et regroupe plus de 140 communautés. Elle a pour mission de faire connaître le don des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée. Bertrand Figarol a participé aux festivités de ce cinquantenaire. Il est le coordinateur de ce jubilé.
C'est un moment de passage entre des moments d'histoire fondatrice et des moments d'histoire de maturité que nous construisons encore au quotidien, avec quelques traits de caractère qui se sont affirmés avec le temps. L'Arche n'est pas une communauté qui vit sur des certitudes, mais une communauté qui accueille la réalité telle qu'elle se présente, qui essaye d'y voir les signes que l'Esprit-Saint lui envoie, qui essaye d'interpréter ça avec sagesse, avec discernement, pour se guider à travers les situations sociales, économiques, politiques que nous découvrons au fil du temps.
Est-ce que votre message est mieux reçu aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans ?
C'est sûr que le message que nous transmettons, qui est un message d'entraide mutuelle, les gens qui sont plus nantis, plus forts, plus sécurisés dans la société, ont besoin des gens les plus fragiles, parce que ces gens fragiles apportent une spontanéité, une fraîcheur, une vraie liberté que lorsqu'on est trop nanti, on perd facilement. Ce message d'entraide passe de mieux en mieux et je pense que puisqu'on vient de célébrer sa sainteté, le discours de Jean-Paul II était tout empreint de ces valeurs de mutualité et on en retrouve des échos éclatants dans la parole du pape François. Donc ces valeurs que nous avons portées pendant 50 ans, aujourd'hui, l'Église les a fait siennes. La société, d'une manière générale, est très attentive à cette idée de partage, de mutualité, de compensation. L'Arche apporte un petit plus d'humanité, de chaleur et peut-être de vérité. J'ai l'impression que de mieux en mieux, les pouvoirs publics, les groupes politiques sont attentifs à ce que nous pouvons vivre.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.